plus.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 14h à Washington. Un point sur l'actualité avec Abdulrahman Dia. On démarre par la Centrafrique où quelque 1 800 000 électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur président et leurs députés. L'explosion de violence redoutée n'a pas eu lieu, mais les observateurs craignent que nombre d'électeurs n'aient pu voter dans ce pays occupé aux deux tiers par des groupes armés. Bangui est resté calme jusqu'à la fermeture en fin d'après-midi de la plupart des bureaux de vote. De très nombreux casques bleus et des soldats centrafricains et rwandais ont patrouillé dans tous les quartiers. L'ex-président François Bozizé, dont la candidature a été invalidée, a annoncé publiquement ce dimanche son soutien à la rébellion, appelant à boycotter le scrutin. Les Nigériens ont voté ce dimanche pour une élection présidentielle qui doit marquer la première transition démocratique entre deux présidents élus dans ce pays, donc en proie à des attaques djihadistes récurrentes. Quel que soit le vainqueur, la victoire appartient au peuple nigérien. C'est un jour spécial pour le Niger qui va connaître pour la première fois de son histoire une alternance démocratique, a souligné le président sortant Mamadou Issoufou. Après avoir voté à l'hôtel de ville de Niamey, 7 400 000 électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir parmi 30 candidats qui veulent succéder à M. Issoufou. Les résultats ne seront pas connus avant plusieurs jours. En Guinée, au moins 6 personnes ont été tuées, plusieurs blessées samedi dans le sud du pays, dans des violences intercommunautaires. Un bilan donné par le docteur Kaba Kondé, directeur de l'hôpital de la ville de Macenta, dans le sud du pays. Il parle également de 40 blessés. Cette ville en Guinée forestière est le théâtre de ces violences entre les communautés Toma, généralement animistes, et Toma Manya, généralement musulmans. La situation était grave, mais elle est maintenant sous contrôle, a dit le préfet. Au Cameroun, au moins 37 personnes, dont 10 femmes et 4 enfants, ont été tuées dimanche dans une collision entre un bus et un camion au centre du pays. Le bus a fini sa course dans un ravin et 19 passagers ont également été blessés, a ajouté l'antenne de la radio publique CRTV. Le commissaire de la sécurité publique de Ndikini Meki, où l'accident s'est produit en pleine nuit. Les occupants du bus revenaient de l'ouest du Cameroun pour se rendre à Yaoundé après les festivités de Noël, selon le directeur de l'ONG de prévention routière Securuta. En Ouganda, un journaliste qui couvrait la campagne électorale de l'opposant Bobi Wine a été blessé lors d'affrontements avec les forces de l'ordre près de Masaka, dans le sud du pays. Il a été hospitalisé dans un état grave, a annoncé la police ougandaise. Ashraf Kassirié travaille pour Ghetto TV, une chaîne YouTube dédiée à la campagne électorale de M. Wine, qui affrontera le président sortant Yoweri Museveni dans les urnes le 14 janvier. Lors d'un meeting électoral donc de M. Wine, des affrontements violents ont opposé ses supporters à la police, a indiqué cette dernière dans un communiqué publié dimanche. La Turquie répond aux menaces de l'homme fort de l'est de la Libye. Le maréchal Haftar, le ministre turc de la Défense, a déclaré que son pays répondra à toute attaque contre ses forces présentes en Libye. Oulusi Akar, lors d'une visite à Tripoli, a qualifié Khalifa Haftar de criminel de guerre et de meurtrier. Les forces turques soutiennent le gouvernement d'union nationale dans le conflit en Libye. Jeudi, le maréchal Haftar a appelé à chasser l'occupant turc et il dit qu'il n'y aura pas de paix en présence d'un colonisateur sur nos terres. Le Khalifa Haftar est soutenu par la Russie et les Émirats arabes unis. La prochaine session de négociation entre les talibans et le gouvernement afghan doit commencer début janvier au Qatar. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche un responsable afghan. Les négociations de paix interafghanes qui avaient débuté le 12 septembre à Doha avaient été suspendues jusqu'au 5 janvier. Début décembre, les deux parties avaient décidé de faire une pause après des mois de rencontres qui s'embourbaient dans des désaccords sur l'organisation des discussions et sur des interprétations religieuses. Fin de ce bulletin d'information, restez en compagnie du programme de VOA Afrique.
et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric Mandelakiza avec vous. Lionel Lunanila Kajima assure la mise en onde. Ce soir, nous continuons notre discussion sur le sport et la foi, centrée notamment sur la main de Dieu. Une expression que feu Diego Maradona utilise le 22 juin 1986 pour qualifier son but marqué volontairement avec la main contre l'Angleterre lors du mondial disputé dans le stade Azteca de Mexico. C'était exactement à la 51e minute lorsque Maradona s'élève dans la surface de réparation et trompe le portier Peter Shilton et la vigilance de l'arbitrage en détournant le ballon dans le but anglais avec sa main gauche. Le but est validé malgré les protestations des joueurs anglais. Voilà comment ce geste frauduleux fait référence à la main de Dieu. Tout de suite, nous entrons dans le vif du sujet avec nos invités. Depuis Ottawa, au Canada, je suis en ligne avec Tarsis Harelimana. Il est journaliste sportif olympique indépendant. Tarsis, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
En Pennsylvanie, le professeur Jean-Pierre Karegeye, chercheur et spécialiste des questions religieuses. Bonsoir, Jean-Pierre.
Bonsoir, Eric.
Jean-Pierre, je vais commencer par vous. Après ce duel remporté contre l'Angleterre, au lieu de calmer les esprits, Maradona exacerbe la polémique et dira tout simplement, un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu, la Bible parle beaucoup de la main de Dieu, mais dans quel sens ?
Bon, je crois que ça signifie beaucoup de choses parce que c'est une référence qu'on trouve dans plusieurs livres de la Bible. Le premier sens, d'abord, c'est la façon, la façon dont les croyants voient Dieu, c'est-à-dire Dieu à travers une expression humaine, hein, Dieu qui soit proche. En utilisant, parce qu'il y a plusieurs façons et dans la Bible de décrire ou de définir Dieu. Et en général, quand Dieu est décrit à travers les attributs humains, ça signifie en général qu'on veut être proche. Les autres saints Dieu qu'on définit comme proche, pas lointain. Mais quelque chose qui me semble assez important en parlant de cette religion de Maradona, et je crois qu'il faut connaître aussi l'histoire de l'Amérique latine, et c'est qu'il y a aussi beaucoup, à partir du christianisme et surtout du catholicisme, il y a eu d'autres branches ou plutôt d'autres mouvements chrétiens qui s'étaient créés. La libération et autres, oui. Mais aussi, même en Afrique, par exemple, à partir du christianisme dans la relation avec la culture, l'histoire des gens, par exemple, le kimbanguisme au Congo, en Angola et Congo-Brazzaville aussi et ailleurs. Mais c'est à partir aussi des éléments culturels d'une histoire propre aux gens et qu'on cherche à redéfinir Dieu et en adoptant certains éléments du christianisme. Mais pour ce qui est de cette religion de Diego Maradona, il y a un de ses adeptes, il semble que maintenant il y a autour de 100 000 ou réclame d'être autour de 100 000 adeptes de cette religion. Il y a quelqu'un qui avait dit quelque chose d'assez important et pour nous permettre par exemple de comprendre qu'est-ce que c'est cette religion. Il a dit ceci, c'est un certain Alejandro Verón, il a dit ceci: j'ai une religion rationnelle, la religion catholique. Et j'ai une religion dans mon cœur, une religion de passion, c'est Diego Maradona. Et donc, à travers ça, je crois que c'est assez important. Donc, les gens disent, voilà, nous nous identifions à cette personne vivante, etc. C'est une façon peut-être d'incarner, de donner chair à ce qu'on croit, à ce qu'on aime, je dirais pas croire nécessairement, mais ce qu'on aime, ce qui est d'absolu, que ça soit le sport, que ça soit, et cette relation, et on essaie de diviniser à travers cette divinisation de Diego Maradona. Et pour d'autres, moi j'aime vraiment ces définitions. Pour d'autres, ça devient vraiment une religion. Bon, c'est comme, qu'est-ce que c'est une religion? C'est au Congo, vous avez par exemple à l'époque Papa Wemba qui disait: je suis le pape de la SAP, la religion qui t'indique. Donc, par exemple, donc la SAP devient une religion. Donc, Est-ce qu'il faut voir, mais évidemment pour le cas de Maradona, c'est profond parce que les gens vont adopter la Pâques, Noël en rapport à ça. On peut parler aussi à peut-être la comparaison est forcée, mais avec Rastafari par exemple, il est Selassie aussi qui est divinisé. Mais donc dans tout ça, je crois que et j'aimerais Eric, je crois que on pense vraiment ce qu'on pourrait dire. Qu'est-ce que Maradona nous a laissé comme message dans cette relation à la religion? Ou qu'est-ce qu'il donne à penser, n'est-ce pas? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses dans les sports. J'ai cité tout à l'heure le cas, par exemple, du racisme. Et autant que c'est un lieu où il y a expression de racisme et autre chose, mais autant aussi c'est un lieu d'expression d'unité. Donc, comment voir ça et comment renforcer ce lien? Vous avez parlé
c'est un rituel d'espoir. C'est un rituel d'espoir, tout comme on l'a vu dans le gospel, les chants dans les plantations de canne à sucre ou de tabac. Oui, c'est vraiment ce rassemblement qui va, disons, permettre au peuple en difficulté de d'avoir un certain espoir. C'est pour ça que je préfère le mythe, si vous voulez, ou plutôt la cosmogonie guaraniste du côté de Corrientes, dans la province de Diego, là où il est venu, ses parents sont venus, parce qu'on parle de cette terre promise, et il parle de la terre sainte, c'est la terre qui n'est pas sale. Et donc, en fait, il y a cette croyance, et qu'on retrouve dans toutes les sociétés finalement. Nous, on est là, et on recherche finalement la cause des causes. Et la cause des causes, c'est quoi? C'est bon, s'asseoir, c'est quel est ce Dieu créateur qui a créé le monde? On s'est dit, mais c'est tellement compliqué que cela. Et ça, finalement, quand on se retrouve et qu'il y a une religion qui est finalement le sport et qui est adorée et qu'on aime, et même si on va l'interdire au début du siècle, même si ça sera, disons, un rituel païen, et bien ce culte-là va être un culte prometteur pour les civilisations, que ça soit en Angleterre, que ça soit aux États-Unis, que ça soit aussi en Argentine, et même au Brésil. Donc, ce guide qui va permettre aux gens de s'émanciper, et de revendiquer leurs droits aussi. Et on imagine des États-Unis sans la musique, sans également le sport pour les Noirs. Ça, c'est évident. Et donc, c'est un mouvement social qui s'est créé et qui a eu ces liens à travers les siècles, à travers le temps, et qui s'est approprié finalement son orientation, qui est le sport, et qui s'est créé ses lois qu'il faut protéger. Le 21e siècle, 2020, est marqué par deux événements. Il y a cette sorte de malédiction de Dieu, qui est le coronavirus. Il y a également aussi ce mouvement des droits civiques qui est en train de et que le sport conteste, ça c'est évident, c'est tellement important de le dire. Donc il y a les lois, c'est pas le sport qui le conteste, mais il y a les lois qui ont été faites, et par la FIFA, et par d'autres organisations sportives, qui finalement qui sont des lois de tolérance, d'équité, qui règlent le mouvement sportif, et c'est pour ça que finalement, et le football, et les Jeux Olympiques, demeureront ce qu'ils sont, c'est finalement ces deux mouvements pacifistes finalement. C'est pas uniquement de la religion, mais c'est un culte finalement permanent. Quand tu vois Usain Bolt, c'est le signe de la croix. Maradona, la même chose. Et finalement, on a la victoire. Il y a quand même un mystère quelque part. Tu peux croire ou ne pas croire, mais il y a quelque chose de la magie. N'est-ce pas, Eric?
Effectivement, j'ai retenu un extrait de votre article dans Afrique Olympia. Vous dites, je visionne alors dans ma tête les images de ces athlètes debout sur la première marche de podium, plus haut que les autres, qui lèvent les yeux vers le ciel. Je vois aussi l'Olympien Usain Bolt qui fait le signe de croix avant chaque course et qui remporte toutes ses médailles frappées à l'effigie de Nike, la déesse de la victoire.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et Maradona, c'est exactement ça en 1986. On priait Dieu, on a prié Dieu pour éliminer l'Angleterre. Et ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Et en 1990, les dieux étaient finalement allemands, parce que une équipe d'Argentine qui est éliminée par les dieux camerounais, qui est abattue par les dieux camerounais au premier tour, mais qui va progresser finalement, et qui se retrouve en demi-finale à Naples, face à une équipe d'Italie. Et Maradona est adoré par les Napolitains. Mais il est haï aussi par les Italiens. Donc, de toutes les façons, ce qu'on peut dire, c'est que d'un côté, on voit bien sûr plusieurs dieux qui sont créés, des fanatiques dans les quartiers, on le disait tout à l'heure, cette histoire de sorcellerie, ça se passe en Angleterre, ça se passe en Argentine aussi, ça se passe, si vous voulez, dans tous les pays du monde. Alors, c'est ça le football, c'est la magie du football, c'est un peu compliqué. Donc, c'est encore une fois une scène à quatre buts. La confrontation sur le terrain, on va accepter quand même la décision de l'arbitre, même si c'est la main de Dieu. Et vous avez également le supporter qui danse, qui rythme et qui accompagne l'équipe. Vous avez les acteurs avec leurs croyances, et quelque part, il y a quelqu'un, il y a des sages qui sont en train de rythmer le temps et de vous dire, mais écoute, c'est celui-là qui va gagner. Et ce qui est grave en Amérique latine et en Argentine, c'est qu'il y a aussi des voyants. Ils vous disent, ben voilà, moi j'ai vu ça, et le résultat, ça sera ça.
Jean-Pierre, moi, ce que j'aimerais ajouter, oui,
très rapidement.
Oui, très rapidement. Donc, je crois que dans ce qui est d'extraordinaire et dans le sport, c'est de voir, par exemple, aujourd'hui, dans le cas même des États-Unis, c'est à travers le sport qu'il y a eu, par exemple, la dénonciation du racisme, et qu'on peut voir maintenant de plus en plus en Angleterre ou en France, avec ce qui s'est passé avec l'équipe d'Angleterre, avec Paris Saint-Germain, et puis et l'équipe la Turquie. Donc, de voir que ça devient aussi un lieu de dénonciation, où on dénonce par exemple le racisme. Mais quelque chose aussi d'important à travers le sport, si je vois ça sur le plan éthique, c'est très important de voir, d'une part, c'est un lieu de réalisation de soi, c'est-à-dire en tant qu'athlète, qu'est-ce que j'accomplis, c'est que ça me demande comme effort physique, c'est que ça me demande comme assaise, etc., pour parvenir à des fins comme individu. Mais en même temps, j'accomplis cela au sein d'une communauté, c'est-à-dire mon équipe. Donc ça, c'est aussi quelque chose, je crois, que de très important de voir, cette relation dialectique entre l'individu, mais aussi le groupe. Mais c'est aussi un lieu où s'exprime aussi la loyauté, donc envers son équipe, envers la communauté, etc., mais l'amour, mais aussi le sens de la justice. Donc je crois qu'en fin des comptes, je dirais, une équipe de sport, ou bien le sport, c'est le miroir de notre société, mais c'est aussi, je dirais pas de la magie, mais un pouvoir qu'il faut utiliser à bon escient. Et je crois qu'on peut faire beaucoup avec le sport, dans la mesure où c'est le miroir de notre société, et donc on peut s'adresser à cette société à travers le sport, et je crois que, et de plus en plus, on voit cela. C'est-à-dire, quand il y a une injustice, qui se passe, par exemple, je m'excuse de revenir à cette scène en parlant du racisme, parce que ça existe, quand il y a un cas de racisme qu'on rencontre dans la rue, ou par exemple dans un lieu de travail, ça peut passer inaperçu. Mais quand c'est sur un terrain de foot, ou dans un jeu, ou dans n'importe quel sport, tout le monde est au courant. Et donc, ça signifie comment utiliser ce lieu pour parler, ou plutôt étendre nos valeurs. Et je crois que le pape François avait dit quelque chose sur le sport, en disant « Le sport aide à cultiver les valeurs de la vie ». Et donc, je crois que c'est quelque chose d'important que je voulais juste souligner.
Parce qu'on n'a pas le temps, en disant que c'est bien résumé, mais en disant que le sport, l'olympisme, c'est quoi? C'est la joie dans la souffrance. Et la souffrance, c'est ça, c'est la vie, c'est le combat dans la vie. Et ça nous apprend finalement à aimer l'autre, à aller de l'avant. Mais il y a de l'excellence, la joie et surtout la solidarité. Nous avons les trois valeurs qu'il faut mettre en exercice, en avant: l'excellence, l'amitié et la solidarité. Donc il faut quand même passer par la joie et la souffrance.
Oui, c'est ça. Juste un dernier mot,
c'est très important. Je vais commencer par où Tarsis, donc là, de là où il est parti. Donc en parlant de ces dualités qui existaient dans les religions entre le corps et l'esprit. Et c'est plus tard et de plus en plus que les religions ont compris qu'il faut un corps, il faut une âme saine dans un corps sain.
Voilà, oui, ça c'est vrai.
Oui, Tarsis, le 29 octobre, c'est la veille de la naissance de Pelusa. C'est le Noël maradonien.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Bon, d'abord, moi je suis, si vous voulez, croyant. Disons croyant quoi, je suis catholique. Et historiquement, je pense que les spécialistes de la religion ne vont pas nous contredire. Historiquement, Noël, ce n'est pas le 25 décembre. Pourquoi on a choisi cette date? Donc ça veut dire, le 25 décembre, dont on nous propose, la religion catholique nous propose, c'est pas dit que c'était vraiment la vraie, que ce n'est pas peut-être un choix d'une fête juive qui était à l'époque. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la date, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est cette identification ou un choix qu'on a fait. Je respecte toutes les religions du monde, mais je respecte aussi certaines croyances. Oui, on a appris, j'ai essayé d'étudier cette religion, mais ce que j'ai compris à travers cette religion, c'était pas Maradona qu'on adorait. C'est ça, en fait, ce qui est intéressant. Et lui-même, il refuse. C'est ça. Ce n'est pas un mythe, c'est un rituel qui est là, qui est accepté par le gouvernement argentin, avec ses fidèles, avec ses fans. C'est une sorte d'idéologie, en fait, comme on accepte d'autres religions dans ce pays. Là, il lance encore la balle, il dit, mais écoute, je ne suis pas le dieu, je ne suis qu'un simple footballeur. J'ai mes fans, j'ai ma vision d'être. Et alors, la difficulté de toutes les religions, c'est que on doit être puni quelque part, on doit se confesser. Et maintenant, on nous donne encore l'espoir d'espérer. On se confesse, on tombe, on se réadapte. Donc je pense que malgré tout ce qui s'est passé de mauvais pour Maradona, c'est qu'il a montré qu'il est humain, qu'il faut accepter l'humain. Et même les dieux grecs, avec des dérapages qu'il faisait, ses amours qu'il faisait et tout ça, Dieu n'était pas correct. Disons, Zeus n'était pas correct. D'autres dieux n'étaient pas corrects. Sauf évidemment quand on est venu au monothéisme. Mais alors, voilà que le football nous amène ce mélange de tout, ces croyances qui sont, heureusement, je dis bien heureusement, acceptées par le gouvernement argentin et des gouvernements de latino-américains, parce qu'il faut vivre, il faut une ouverture, et l'Église catholique a compris.
Jean-Pierre, dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 jusqu'au verset 27, l'apôtre Paul se sert du sport pour illustrer une vérité spirituelle. Il compare la vie chrétienne à une course que nous courons pour remporter le prix, une couronne éternelle et indestructible. En 2 Timothée, chapitre 2, verset 5, Paul dit « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. » Est-ce qu'on peut dire que Dieu a-t-il ainsi créé le sport?
C'est bien de citer l'apôtre Paul. Et tu sais, toutes ces lettres étaient écrites dans quelle langue? Donc, c'était dans quelle langue, c'est ça? Donc, c'était en grec, n'est-ce pas? Et donc, le mot, si vous voulez, la Grèce dirigeait le monde, du moins en termes de civilisation. Et donc, certainement, il avait cette culture-là et la place du sport et dans la vie des gens et dans la relation à la divinité. Et c'est intéressant de voir comment il a utilisé ça et cette image du sport pour exprimer la relation à Dieu. Et je crois que ça revient encore à l'importance du sport, parce qu'il n'est pas seulement pour ceux qui pratiquent le sport, et de voir comment le sport peut devenir une sorte de limon, n'est-ce pas, pour une véritable spiritualité mondiale. Et quand je parle de spiritualité, mais je pense que je pense plus aux valeurs incertaines absolues, sans nécessairement une relation à une divinité quelconque, mais plutôt ce que nous considérons comme valeurs importantes pour les humains. Et le sport, dans ce cas-là, si j'ai défini cela comme une spiritualité, mais ce serait aussi une sorte d'inter-enrichissement, donc des civilisations et des peuples, n'est-ce pas? Et je crois que le sport nous permet ainsi d'aller vers une quête d'humanité véritable. Et donc c'est ça ce que je verrais, si je dois définir. On parlait de cette relation entre les sports et le sport et la foi, et l'apôtre Paul, ce qu'il fait, c'est utiliser l'analogie du sport, n'est-ce pas, le langage sportif pour exprimer sa foi. Et nous pouvons aller même de notre niveau, pas seulement en termes des relations entre sport et foi, mais voir l'acte sportif en soi comme un acte spirituel, n'est-ce pas? Tout à l'heure on parlait dans ce cas-là, et je crois que parce qu'il nous permet d'être dans cette quête d'humanité véritable.
Oui, moi je terminerai en disant que finalement, pour les Grecs qui ont inventé l'olympisme et le sport, l'athlète, quel que soit le joueur, quel que soit l'athlète, c'est finalement un héros mortel. Hein. Il sera accompagné jusqu'à la fin de son voyage, ce que nous avons vu avec Maradona, et ce jour-là où un artiste viendra sculpter sur sa tombe les couronnes gagnées tout au long de sa carrière. Et ce jour où son corps deviendra une ombre que les eaux du distinct emporteront plus loin. Pour les Grecs, c'est dans un autre monde, dans le monde le dieu des enfers, dirigé par finalement Hadès. Mais nous, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'image de Maradona reste finalement. On écrira de Maradona, on parlera de lui. Et ce que j'ai aimé dans tout ce que nous avons vu comme décor, comme reportage qu'on a fait, on a oublié ce côté humain, qui est le drame qu'il a vécu comme d'autres sportifs. Il a vécu un drame, il a été piégé par une sorte de mafia. Mais c'est aussi un humain, avec ses amours, il a été piégé par ses amours. Quel est l'être mortel qui n'a pas été soumis à ces tentations d'amour, à ces tentations d'argent? C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Maradona lorsqu'il rend la visite au pape en 2000, parce que lui, il est aussi dans son décor d'argent, il a l'argent, il roule dans des belles voitures, mais ce n'est pas le langage qu'il peut tenir quand même à l'homme de l'Église. C'est bien qu'il le fait, qu'on l'adore, qu'on le déifie, qu'il ose, mais c'est un autre personnage, c'est pas le modèle qui va dire au pape que bon, il y a le décor, il y a tout ce qu'il faut au Vatican, au moment où lui aussi il a ses palais, mais c'est aussi l'homme, c'est un humain, mais il ose au moins le dire à ce que les gens ne disent pas. Donc c'est très important de noter ça. C'est vraiment un mortel qu'on a accompagné, c'est bien, qu'on adore, et qui finalement, l'héritage de Maradona, c'est d'avoir popularisé aussi le football, ce sport qui unit, qui rassemble dans des moments les plus difficiles, et qui fait sortir finalement les jeunes dans l'obscurité en leur donnant l'espoir. Ça, c'est très 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 important pour nous.
Signalons qu'à l'aube de la cérémonie privée avant l'inhumation de Diego Armando Maradona, l'ambassadeur d'Argentine à Rome, Roberto Carles, a remis personnellement à la famille Maradona du pape François un chapelet béni. Nous arrivons au terme de cette émission, la deuxième partie, focalisée sur la main de Dieu, une expression que feu Diego Maradona utilise pour faire référence à son but marqué volontairement avec sa main lors du mondial contre l'Angleterre, le 22 juin 1986 au Mexique. Nous avons compris également comment cette main de Dieu associe le génie footballistique de Maradona à l'église maradonienne, mais aussi le sport en général qui est associé à la foi. Merci à Tarsis Harelimana, journaliste sportif olympique indépendant. Merci également à Jean-Pierre Karegeye, chercheur et spécialiste des questions religieuses. Merci à Lionel Runamira Gahima qui a assuré la mise en onde. Eric Manerakiza vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.